Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Bienvenue dans le troisième volet de notre série de ribines archéologiques au fil des mégalithes du centre du Finistère, une visite guidée organisée par l'écomusée des Monts d'Arrée. C'est Louis Le Goffic, l'ancien archéologue départemental, aujourd'hui retraité actif, qui nous a déjà raconté la découverte du mot Gobillan à Comana et l'alignement de la noce de pierre à Brasparts. Aujourd'hui, il nous emmène à Brennilis explorer l'imposante sépulture de Thiers Boudiguet qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ environ. Mais avant la préhistoire, une petite histoire.
Vous êtes ici à Thiers Boudiguet. Boudiguet, c'est un nom breton qui est un pluriel d'abord. Un boudic, c'est un être féerique. Hein, c'est pour ça que j'ai traduit Thiers Boudiguet par la maison des fées plutôt que par la maison des nains ou des korrigans. Mais ce qui n'empêche pas que, d'après les légendes, il y a eu des nains et des korrigans là-dedans. La preuve, c'est que ici à Brennilis, lorsqu'un couple allait se marier, et dans le coin ici, il était d'usage que le jeune homme et la jeune fille viennent dans ce monument-là faire un petit tour. Il n'était pas rare que le jeune homme veuille prendre un petit peu d'avance. Et alors, tout d'un coup, sortaient des trous, des korrigans, des farfadets, des trolls, des tous, tout ce que vous voulez, qui donnaient une correction au jeune homme. Et il paraît qu'après, ça faisait d'excellents maris. Bon, il y a une autre légende aussi qui dit que les korrigans, parce qu'on parle des fées, mais il y avait des korrigans aussi, bien entendu. Hein. Donc les korrigans de ce monument ici étaient en guerre perpétuelle avec ceux de la découverte de Comana. Ils n'arrêtaient pas de se balancer des cailloux les uns sur les autres. Et quelquefois, ils se balançaient tellement de gros cailloux qu'ils s'entrechoquaient à mi-distance. Ça a créé la montagne des Monts d'Arrée. Il y a encore une autre légende. Donc on dit que c'est la tombe d'un géant aussi. C'est la tombe de Gargantua. Et qu'il a fallu le plier en neuf pour le faire entrer dedans. Et comme elle fait 14 mètres de long, on n'a qu'à calculer la taille du géant. Bon, en réalité, c'est pas là, la tombe du géant, on la connaît maintenant. C'est une légende qui est rapportée à ce monument-ci. Mais en réalité, elle se trouve sur un autre monument qui se trouve de l'autre côté de la montagne, sur Plonévé-du-Fou. C'est une découverte complètement démantelée qui s'appelle Bez-Géval, donc la tombe du géant. Voilà, donc ce monument-là est connu depuis très très longtemps. Il a été fouillé anciennement, par qui, on ne sait pas, mais il appartenait au vicomte de Queret. Vicomte de Queret, dont le manoir se trouvait entre Brasparts et Plébin, là, près de Pont-Quériau. Et le vicomte de Queret s'est dit, ben moi je vais fouiller ce monument-là. Donc il a fouillé, puisque c'était chez lui. C'était vers 1868, par là, au milieu du 19e siècle. Et il a fait don de tout ce qu'il a trouvé à l'époque, à la Société archéologique du Finistère, qui venait de se créer. Et il a même fait don du monument à la Société archéologique du Finistère. Ce qui fait que la Société archéologique, quand elle a été propriétaire, elle avait fait dresser sur le sommet du monument une borne, genre borne kilométrique, sur laquelle est gravée « Propriété de la Société archéologique du Finistère ». Bon, la borne, moi, je l'ai déplacée parce que tout le monde se demandait qu'est-ce que c'est que cette borne kilométrique qui se trouve là-dessus, alors qu'il n'y a pas de route à passer par là. Et donc, je l'ai déplacée en limite du monument et en limite de la propriété. Et comme c'était la propriété de la Société archéologique, pour bien matérialiser sa propriété, la Société avait créé un petit talus tout autour du monument. Un talus qui se trouvait là. J'ai arrasé le talus. Avec l'accord de la Société archéologique, du temps où j'étais administrateur de la Société archéologique. Et j'ai fait acquérir le terrain autour par le département du Finistère. Et j'aurais voulu faire acquérir également un morceau de la parcelle qui se trouve de l'autre côté du talus, et vous allez comprendre pourquoi. C'est que j'ai pu fouiller cette partie-ci du monument, cette partie-ci. L'intérieur, c'est pas la peine, vous avez été fouillé déjà. Mais j'aurais voulu fouiller cette partie-là, parce que j'ai découvert ici dans le champ, à fleur de sol, une dalle affleurante, et également des dalles qui sont prises encore dans le talus. Et je me demande si cette sépulture en V, pourquoi en V? Parce qu'elle a la forme d'un V, tout simplement, n'est pas un ancêtre des allées couvertes avec une cella qui se trouverait donc de l'autre côté, au nord-nord-ouest. Et ce serait intéressant de fouiller cette cella qui est prise sous le talus, donc elle n'a jamais été fouillée. Ce serait peut-être l'occasion de savoir peut-être à quoi servaient ces cellules-là. Oui. Cella, c'est le mot latin qui veut dire cellule, c'est-à-dire une petite chambre.
Il y a toujours ça dans ce type de
monument? Non, pas toujours. D'accord. Pas toujours, mais souvent.
Mais on ne sait pas trop à quoi ça sert.
Peut-être lieu de culte, lieu d'offrande, lieu de prière, ou réservé à des personnages particuliers. Mais moi, je ne pense pas, parce que c'est ouvert à l'extérieur, la plupart du temps. Donc, ce n'est pas un lieu d'inhumation, c'est plutôt un lieu de culte ou d'offrande. Bon, on ne sait pas. Et puis ce serait aussi une possibilité de faire tout le tour du monument et d'avoir un aperçu plus global de ce type de construction. Alors l'intérêt de ce monument, si vous venez ici après Comana, c'est que vous allez voir un monument qui est relativement bien conservé, avec son péristalite encore en place. Je l'ai redressé, donc j'ai redressé les pierres qu'on a trouvées couchées. Et le tertre est encore comme celui de l'origine. Il recouvre le monument, sauf dans la partie qui se trouve ici.
Petite précision de vocabulaire, le péristalite, c'est l'ensemble des pierres levées qui forment les murs du monument, et le tertre, c'est la terre qui recouvre le monument de pierre.
Malheureusement, ce monument a servi aussi, comme tant d'autres, de carrière de pierre. Comme vous êtes très observateur, je n'aurai pas besoin de vous le montrer, mais ici, sur cette partie de ce pilier-là, vous verrez qu'il y a encore des traces de boîtes à coins. Les boîtes à coins, ce sont les encoches que faisaient les carriers pour mettre des coins de bois qu'on faisait gonfler avec de l'eau pour éclater la pierre. Donc là, déjà, des carriers, sans doute au Moyen-Âge, ont enlevé une partie des pierres de la partie avant du monument. Mais aussi, peut-être, les deux ou trois dalles de couverture qui manquent à l'entrée du monument ont-elles été enlevées dès l'âge du bronze ? Il faut savoir qu'ici, dans la région de Brennilis-Berrien, on se trouve dans la région de France où il y a la plus grande concentration de tumulus de l'âge du bronze. C'est considérable. C'est du bronze moyen. On a très peu de tumulus du bronze ancien. Le seul que l'on ait est à Plouillet. Tous les autres sont du bronze moyen ou du bronze final. Et Jacques Briard, et moi-même d'ailleurs, qui ai fouillé beaucoup avec lui, on était arrivé à la conclusion que ces gens de l'âge du bronze étaient davantage des éleveurs que des agriculteurs. Parce qu'il y avait très peu finalement de culture à l'époque, mais par contre, ils devaient élever beaucoup de moutons et de chèvres. Hein, donc beaucoup de terrains qui étaient en pacage libre.
Comment est-ce que vous savez que donc les gens qui habitaient ici étaient des éleveurs, non pas des agriculteurs?
Ça, c'est l'hypothèse de Jacques Briard, parce que c'est une civilisation assez pauvre. D'abord, les terrains ici ne sont pas très riches, il faut dire ce qui est, par rapport à la frange nord de la Bretagne, où là, on a une civilisation de l'âge du bronze qui est très riche, on a des cultures, etc. Hein, on les retrouve, parce que dans les sites d'habitat ou dans les sépultures, quelquefois, on trouve des graines, etc., qui permettent de savoir ce qui était cultivé et comment ils le cultivaient. Ici, on ne trouve pas. On trouve des poteries beaucoup plus grossières, et puis il semble bien que ce soit des terrains d'élevage. Alors, la région des Monts d'Arrée était plus réservée à l'élevage, alors que le nord de la Bretagne ou le sud, réservé à la culture. Alors, ce monument était bien dégradé quand j'ai commencé à travailler dessus. Et je ne pourrais pas vous dire, bien entendu, tout ce qui contenait, puisque les objets que le vicomte de Quérette avait remis à la Société archéologique pour son musée, le musée départemental breton d'aujourd'hui, a été créé par la Société archéologique du Finistère, il faut le savoir. Mais dans les années 30, je crois que c'est en 1934, il y a eu un incendie, et beaucoup d'archives et beaucoup d'objets ont disparu dans l'incendie du musée. Donc on ne sait pas, j'ai essayé de retrouver ce que le vicomte de Quérette avait donné, mais je dois dire que ça a été un échec, j'ai rien pu savoir. Par contre, les fouilles et les sondages que j'ai pu réaliser devant l'entrée et de chaque côté ont permis d'avoir des enseignements intéressants sur l'histoire de ce monument. D'abord, on a pu faire une datation carbone 14 sur des charbons de bois trouvés dans le cairn. Le cairn, c'est la partie de pierre ici, qui se trouvent accolées contre les parois du monument et qui sont toutes inclinées vers l'extérieur de telle façon que l'eau de percolation, l'eau de pluie, soit évacuée vers l'extérieur du monument et pas vers l'intérieur. Et il y a eu sans doute un foyer qui a été fait au moment de la construction et j'ai trouvé une poche avec plein de charbon de bois que j'ai fait dater par Gif-sur-Rivette, par la méthode du carbone 14, et qui a donné entre 3004 et 3000 avant Jésus-Christ. Ça date donc de la construction du monument, ça correspond au début du néolithique final. Donc c'est une date très intéressante parce qu'elle correspond très bien avec les datations qu'on a pu avoir sur les monuments du même type qu'on a fouillés sur les landes de l'Iscuisse à la Niscate. À l'intérieur de ce monument, vous verrez qu'il y a une pierre debout qui pose problème parce qu'on ne sait pas s'il s'agit... Ce n'est pas un pilier parce qu'il ne... La dalle de couverture ne touche pas. On se demande si ce n'est pas une espèce de stèle, comme il en existe dans certains autres monuments, notamment sur l'île de Guéniocq. Hein, dans les dolmens de Guéniocq, vous avez à l'entrée du monument, à l'entrée de la chambre, souvent une petite stèle anthropomorphe, hein, une dalle travaillée. Mais on connaît également ce type de stèle dans certains monuments ibériques, Espagne et Portugal. Autre possibilité, il pourrait s'agir d'un élément de cloisonnement. Donc il y aurait eu à l'intérieur, comme on connaît dans certains monuments, des cloisons, peut-être pour différents types d'individus ou différents rites qui s'y produisaient. Lorsque j'ai fouillé ici, cette partie-ci, sur ces dalles couchées, des tessons campaniformes. Et des tessons de vases campaniformes, ce sont des vases tout à fait particuliers, comme son nom l'indique, en forme de cloche, décorés et parfaitement datés du Chalcolithique. Chalcolithique, c'est une période qui se trouve entre 2005 et 2000. Par conséquent, les dalles du Périssalite étaient déjà effondrées lorsque les campaniformes sont venus faire un petit tour dans le coin. Et on a également trouvé des tessons de l'âge du bronze, qui sont peut-être contemporains de l'emprunt de quelques dalles de couverture pour faire des caveaux de la jubonze. Autrement, on a trouvé quelques silex aussi, quelques silex taillés, une pointe de flèche tranchante, des disques en schiste qui sont peut-être des couvercles de vase. On a trouvé des céramiques type SOM. SOM veut dire Seine-Oise-Marne, c'est ce qu'on appelle la grande civilisation de la fin du néolithique de la région Seine-Oise-Marne, avec un type de vase tout à fait particulier qui ressemble à des pots de fleurs, mais de fabrication très très grossière et très mal cuite. Et surtout, on a trouvé des tessons d'un vase tout à fait particulier et qui est du type Conguel supérieur. Voilà, ce sont des vases décorés de stries horizontales uniquement sur la partie supérieure du vase. Et ces vases du type Conguel supérieur datent également du néolithique final. Ils ont été dits Conguel supérieur parce que les premiers vases de ce type ont été trouvés dans le dolmen de Conguel dans le Morbihan. Mais maintenant, donc on n'en connaissait pas dans le Finistère jusqu'à cette fouille-là, mais je peux vous dire qu'on en a trouvé depuis. On en a trouvé sur l'île de Molène. Le campaniforme, c'est aussi la même chose. On n'en connaissait pas dans l'intérieur de la Bretagne. Les campaniformes ont été surtout sur toute la côte, hein, aussi bien sud que nord de la Bretagne, mais on n'en connaissait pas encore dans l'intérieur des terres. Et c'était la première fois qu'on trouvait des tessons campaniformes à l'intérieur des terres. Donc, il était normal que les campaniformes aient voyagé à l'intérieur.
Pour finir, un mot de l'architecture de ces monuments mégalithiques qu'on trouve partout en Bretagne.
Disons qu'il y a une évolution architecturale qui est très nette, hein, mais qui dépend des régions. Par exemple, le nord de la Bretagne ne va pas faire le même type de monument que le sud. Les dolmens à chambres compartimentées, par exemple, on n'en trouverait pas dans le nord de la Bretagne. Uniquement sur la France sud. Les sépultures arc-boutées, parce qu'il y a un autre type de monument, ce sont, au lieu d'avoir des dalles de couverture, c'est deux dalles qui s'appuient l'une sur l'autre, ce qu'on appelle les sépultures arc-boutées, et bien vous n'en trouvez que dans l'ouest de la Bretagne, sud-ouest de la Bretagne, pas ailleurs. Donc vous voyez, il y a des modes architecturales suivant les régions. Donc il y avait des architectes, sans doute, à l'époque, hein, qui donnaient leur impulsion à tel ou tel style.
C'était peut-être aussi fonction du type de roche qu'ils avaient aussi, non ?
Non, parce qu'on trouve les mêmes monuments, qu'ils soient en granit, qu'ils soient en schiste, qu'ils soient en quartzite. Parce que c'est les trois roches essentielles qui sont utilisées en Bretagne. Le cairn, c'est un tas de cailloux, mais pas un tas de cailloux monté n'importe comment. Non, c'est un tas de cailloux avec des parements, hein, c'est bien agencé. Et il n'y a que les couloirs et les dalles de couverture des couloirs, pratiquement, qui sont en grosse pierre. Le reste, si vous avez remarqué Barnenez, il y a deux stades essentiels de construction, peut-être davantage, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop comment c'était construit, mais il y a au moins deux. Un qui est construit avec de la dolérite, donc la partie qui se trouve la plus à l'est est plus verte, je ne sais pas si vous avez remarqué, et l'autre est plus grise, parce qu'ils ont épuisé, à un moment donné, pour faire ce premier cairn-là, la roche locale, la dolérite locale qui était fragmentée. Et ils sont allés chercher sur l'île Ostérec, qui se trouve plus au nord, mais qui n'était pas un îlot à l'époque, hein, du granit pour faire la partie la plus à l'ouest.
Ce périple au fil des mégalithes du centre Finistère est terminé. Michel Le Goffic a écrit de nombreux ouvrages et des articles et il donne toujours régulièrement des conférences grand public dans le Finistère. Je vous invite également à consulter le site internet de la Société archéologique du Finistère.